Je suis très content de pouvoir parler aujourd'hui à Daniel Brière parce que Daniel, dans sa carrière, a vécu des moments comme John Tavares, comme James Van Riemsdyk ou Paul Stastny ont vécu dans les dernières heures, et les derniers jours. Salut Daniel.
Salut Martin.
Daniel, d'abord, quand tu entends que John Tavares choisit l'équipe de son enfance, les Maple Leafs de Toronto, pour toutes les raisons que ça comporte, d'aller chez lui dans un marché chaud, mais de partager une couronne avec Auston Matthews, est-ce que ça te surprend?
Bien, ça me surprend un petit peu de ce que j'ai entendu dire, puis de ce que je connais. Là, je ne suis pas un grand ami de Tavares, mais de ce que je connais un peu de Tavares, c'est une personne un peu plus renfermée, un peu plus timide. J'avais un peu comme tout le monde, disons, l'impression qu'il était pour se retrouver dans un marché peut-être plus allié avec son tempérament.
Comme San Jose, par exemple?
Comme San Jose ou Dallas ou même Tampa Bay. Donc oui, j'étais un petit peu surpris de le voir, de se retrouver à Toronto. Mais écoute, je pense que c'est un bon match, c'est un bon fixe. Écoute, ça va être assez incroyable, là, cette équipe-là à Toronto, ce qu'ils sont en train de bâtir. Puis en tant que fans du Canadien de Montréal puis des Flyers de Philadelphie, surtout, disons que ça fait peur là, d'avoir une équipe là, comme Toronto amener un gars comme Tavares dans l'alignement.
Daniel, on n'est pas sans savoir, la ligne de centre, c'est devenu très important. Les Pingouins en ont une très solide. Ils ont levé une coupe de coupe au bout de leurs bras. Les Capitals de Washington en avaient une excellente cette année. Ils ont enfin gagné la coupe, même s'ils avaient Ovechkin depuis plus de 10 ans dans leur équipe. Est-ce que tu penses que l'équation, en fait, les Maple Leafs, laissant partir Van Riemsdyk puis préférant mettre vraiment beaucoup de moyens pour s'assurer d'avoir Tavares, c'était le bon choix dans les circonstances?
Il y a aucun doute dans mon esprit. Écoute, tu te ramasses avec le meilleur joueur disponible. Puis, tu sais, du côté des Maple Leafs, on a aussi perdu Bozak.
Donc, oui, c'est vrai.
On a perdu Bozak et Van Riemsdyk pour Tavares. Bozak était rendu un centre de troisième ligne pour les Maple Leafs. Donc, de le remplacer avec Tavares, qui, d'après moi, va devenir le centre numéro un, suivi de Matthews, puis Kadri avec Marleau sur la troisième ligne. Là, ça va être dur à arrêter. Ça va être une équipe qui va être à surveiller offensivement.
Tu as vécu ça, Daniel. Ça a fait partie de ta vie plus d'une fois, cette fameuse journée du 1er juillet.
Ouais.
Les règlements font en sorte que ça se prépare d'avance. John Tavares, le premier rendez-vous qu'il a eu, après avoir eu quelques rencontres avec Lou Lamoriello, qui essayait de le convaincre de rester avec les Islanders, c'est Toronto. On savait que l'argent serait sur la table à peu près partout pour lui. Est-ce que tu penses que le premier rendez-vous a fait une différence? Parce que tu l'as vécu, ça, toi, t'es passé par là. Est-ce que vraiment les Leafs ont été favorisés étant les premiers à le rencontrer?
Non, je crois pas. Honnêtement, là, je crois pas que c'est ça qui ait fait la différence. Je me souviens, moi, dans mon cas, la première équipe, il y a eu le Canadien, mais la première équipe avec qui on a eu des pourparlers a été les Kings de Los Angeles.
Okay.
Puis très rapidement, j'ai réalisé que non, il y avait pas de fit là de ce côté-là. Puis t'as raison quand tu dis, dans le cas de Tavares, là, on s'inquiète pas de l'argent. Quand tu te retrouves quand t'es chanceux ou la chance de te retrouver dans cette situation-là, l'argent devient secondaire parce que, c'est des gros chiffres, mais comme Canadien surtout, puis je le sais que lui aussi, il a grandi en jouant au Canada, on se considère chanceux de jouer au hockey.
Ouais.
Donc, ça devient juste des gros chiffres. Tu sais que tu vas avoir ton argent, donc ça, c'est plus, tu t'inquiètes plus de ça. C'est d'essayer de trouver à quel endroit tu veux vraiment jouer. Puis c'est ça là qui est arrivé dans le cas de Tavares. Il y a probablement tout mis le pour et les contre pour chaque équipe.
Ouais.
Puis du côté de Toronto, quand ton cœur te parle, c'est difficile de tourner ton dos à ça.
Bon, et bien évidemment, on connecte Tavares aussi avec Mike Babcock. Babcock l'a beaucoup aimé. Moi, j'étais aux deux derniers Jeux olympiques. Il y en a un où malheureusement, Tavares s'était amoché un genou puis il n'est pas resté là longtemps. Là. Il l'a côtoyé également à la Coupe du Monde. Pour avoir été proche d'équipe du Canada, je sais à quel point Babcock accordait de la valeur à John Tavares. Dans des moments comme ça, je reviens à toi, Daniel, tu l'as vécu. Est-ce que la conversation avec un coach que tu as connu un petit peu, est-ce que ce genre de choses-là a pu, comme on dit, closer le dossier pour Tavares?
Je suis pas certain ça non plus de ce côté-là, parce que on a entendu dire pendant longtemps que Tavares adorait Doug Weight à Long Island.
Oui.
Puis on a entendu la même chose parce que Trott, je crois, faisait partie d'équipe Canada où il a eu la chance de côtoyer Tavares. Ce qu'on entendait, c'est que Tavares aimait beaucoup Trott également. Donc j'ai comme l'impression là que oui, c'est un élément qui était important, mais je pense pas que c'est ça qui a fait la différence, parce que si ça avait été juste ça, il aurait probablement resté où c'était confortable avec John Doug Weight, parce qu'ils ont été quand il est déménagé à Long Island à 18-19 ans, Tavares restait chez Doug Weight.
Bon.
Donc il y avait une relation spéciale de ce côté-là. Fait que je pense que c'est plus que ça là, qui a fait que Tavares signe avec Toronto.
Ce que je suis en train de comprendre de ce que nous dit, tu nous dis, Daniel, l'important, c'est pas nécessairement de vraiment aimer le coach, mais c'est juste de pas le détester.
Ben exactement, oui, ça c'est un bon point.
Ouais.
Puis ils ont quand même cette relation-là, puis je vais être honnête avec toi, là, je connais pas beaucoup de coachs qui aimeraient pas avoir un Tavares dans son alignement. Fait que je pense que c'est assez facile pour n'importe qui là, d'aimer un gars comme John Tavares.
Tu sais que les gens, il y a des gens à Montréal, évidemment, les gens regardent ça avec les émotions. Comme on dit, les partisans sont payés pour être émotifs. C'est leur job d'être émotifs. Alors, les gens au Québec disent il aurait dû rencontrer le Canadien, puis on est déçus qu'il n'ait pas rencontré le Canadien. Il leur a dit assez tôt, d'ailleurs, que le Canadien n'était pas sur la courte liste. As-tu l'impression, à travers ça aussi, Daniel, que ça démontre un peu l'honnêteté de Tavares de dire d'emblée à certaines équipes, ben merci de vous intéresser à moi, mais c'est pas réciproque, alors on ne va pas plus loin. Ça témoigne à une certaine classe de la part de Tavares.
Oui, puis on entend un peu la même chose du côté de Philadelphie. On est déçu de savoir que les Flyers étaient même pas dans la course, qu'on n'avait pas donné le temps. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, quand on dit là que... c'est une bonne personne, c'est une personne qui veut pas faire perdre le temps à personne. Puis c'est la raison pourquoi là, il a eu sa courte liste. Il a écouté, il a rencontré les gens de sa courte liste. Puis je pense que ça faisait son affaire aussi. Mm-hmm. D'après là, les rencontres primaires qu'il a eues avec ces organisations-là, il savait exactement où il s'en allait, puis c'était pour être une des autres.
Tantôt, quelqu'un que tu connais bien, Bruno Gervais, qui a côtoyé un peu Tavares avec les Islanders, il disait probablement que John, lui, c'est un gars de la grande région de Toronto, il sait à quoi s'attendre, mais il a dit probablement qu'avant de prendre sa décision, il a dû en parler avec ses proches, avec les gens autour, parce que il savait que ceux qui vont vivre peut-être les plus gros désagréments, s'ils pourraient en avoir, d'être un joueur des Maple Leafs quand t'es un Ontarien ou d'être un joueur du Canadien quand t'es Québécois, c'est ta famille qui les vive. Est-ce que tu penses qu'un gars comme Tavares a pris le temps de jaser de tout ça, peut-être de ce sujet-là avec sa conjointe, avec ses parents? Est-ce que c'est venu, selon ton expérience, sur la table, ces discussions-là?
Ben oui, tu dois avoir ces discussions-là. Tu dois essayer de préparer tes proches le plus possible. Tu dois un peu savoir ce qu'eux autres en pensent, naturellement, parce que c'est une grosse décision. Là, tu signes à long terme, comme ça, les 7 prochaines années de sa vie vont être passées à Toronto. Donc, il doit pour amener en considération là, ce que surtout sa conjointe, mais aussi là, ses parents, ses amis proches, parce que c'est eux autres qui vont vivre les moments les plus difficiles. Quand ça va bien, ça va être le fun. Mais si les choses commencent à aller de travers un petit peu pour Tavares, c'est pas lui autant qui va souffrir que les gens proches de lui. Puis je l'ai vécu un peu à Montréal. Mes moments difficiles, moi, ça me dérangeait pas qu'un journaliste écrive que Daniel Brière ait passé son temps, il n'y a plus d'affaires sur la glace, etc., etc.
Mais ta sœur, ton père,
ben oui, si tu te mets un peu dans la peau de ces gens-là, qui eux autres ne peuvent rien faire pour contrôler ça, puis ils veulent protéger, que ce soit leur meilleur ami, son frère, son fils. Donc, c'est pour ces gens-là là, que ça devient plus difficile.
Et la conjointe aussi, parce que probablement que la conjointe de John Tavares, sauf erreur, est aussi une Ontarienne. La conjointe aussi devient un élément très important. Les organisations ne peuvent pas tasser ça du revers de la main, là.
Exactement. C'est un très bon point, parce qu'il doit vivre avec elle à tous les jours. Elle fait partie de sa vie. Je suis sûr qu'il est habitué un peu à ça parce que quand même, New York, c'est un gros marché. Donc, je suis sûr que Toronto ne laisserait pas trop, mais il, sans aucun doute que oui, il a dû prendre en considération son opinion à elle aussi.
Dans les autres signatures, puis là, on va parler un petit peu de hockey. Paul Stastny choisit Vegas. C'est une bonne équipe, ouais. Vegas, mais moi, j'ai toujours pensé qu'il était mieux entouré à Winnipeg. Qu'est-ce que tu en penses?
Sans aucun doute. Je suis un peu surpris de cette signature-là. De le voir s'en aller à Vegas. Moi, je suis pas convaincu que Vegas va continuer dans la même direction. Je pense qu'ils vont frapper un mur à un certain moment donné.
Ouais.
Je vois pas Vegas comme une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Je peux me tromper, mais encore l'an prochain. J'aurais aimé ça voir un gars comme Stastny là, s'amener à Montréal. Il y avait de la place pour lui où il aurait pu jouer beaucoup. Mais écoute, oui, certainement qu'il aurait mieux, ça aurait mieux été pour lui à Winnipeg, surtout avec la grosse équipe qu'ils ont à Winnipeg.
Et puis à Philadelphie, vous récupérez James Van Rumsdijk. Puis au cours des dernières années, quand Danny et moi allions à Philadelphie, on entendait toujours des collègues, Daniel, tu le sais probablement encore mieux que nous, que tu sais, ça avait été une erreur de le laisser partir, puis qu'on n'avait pas été assez patient, puis dans le temps on disait il est pas dur, c'est pas un vrai Flyers, et ça faut qu'il y ait plus. Puis là ben c'est un compteur de 40 buts. Les Flyers viennent d'aller chercher un bon joueur, puis eux ils ont les gars pour l'entourer aussi là.
Ouais, on voit ça régulièrement dans les nationales. Un jeune joueur qui s'amène, puis on s'attend à tellement plus, puis ça prend quelques années avant de voir l'éclosion de ces joueurs-là, puis on n'a pas la patience de les garder, on se débarrasse d'eux autres. C'est un peu ce qui est arrivé dans le cas de Van Rimsdijk. Puis à Toronto, il est devenu là, ce que tout le monde s'attendait. C'est une grosse signature pour les Flyers. Mais déjà, tu sais, les Flyers ont beaucoup quand même de profondeur en attaque. Une jeune défensive, mais ça règle toujours pas le problème devant les buts. C'est ça qui retient un peu le fait là, que est-ce que les Flyers peuvent aspirer à une Coupe Stanley dès l'an prochain? D'après moi, tant aussi longtemps qu'on trouve pas un gardien de premier plan, ça va être le même problème du côté des Flyers.
Daniel, en terminant, est-ce que tu crois que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, surtout GVR avec les Flyers, on a eu les prolongations de contrat pour Logan Couture, Kane avait déjà signé avec les Sharks, les Kings de Los Angeles se sont tournés vers Kovalchuk. Si tu es dans la cuisine de Max Pacioretty puis tu chaussais ses souliers là aujourd'hui, là, à 14h18, 1er juillet, avec ce que tu sais maintenant, les gars qui ont signé, Neil qui n'a pas encore signé, est-ce que tu te dis c'est une bonne nouvelle pour moi ou si tu te dis c'est pas une bonne nouvelle pour moi?
Mais ça dépend si tu veux rester à Montréal ou non.
Moi, je pense qu'il veut pas rester à Montréal, là.
Ben OK, mais s'il veut pas rester à Montréal, c'est sûr qu'il y a beaucoup de spots qui ont été où on a signé des joueurs, donc il y a beaucoup moins de disponibilité qu'il y en avait il y a 24 heures. Mais il y a sûrement encore plusieurs équipes là d'intéressés à un Max Pacioretty. Je pense notamment à une équipe comme Los Angeles qui était pas capable de marquer de but l'an dernier.
Ouais.
On a vu ça en séries éliminatoires encore une fois. Même si on a signé Kovalchuk, une équipe comme Los Angeles, je pense que ce serait très, très intéressé à amener un gars comme Max Pacioretty avec leur équipe.
Daniel, merci beaucoup de nous avoir accordé ces précieuses minutes, puis au plaisir de te retrouver et te reparler au fil de nos émissions Les Amateurs de sport. Merci encore, Daniel.
Merci beaucoup, Martin. Toujours un plaisir. À bientôt.